J'aimerais ce matin voir avec vous notre amour pour Christ. Nous savons tous, autant que nous sommes en ce lieu ce matin, que Dieu nous a aimés, que Dieu nous aime, que Dieu nous aimera encore et encore et encore. Ça, nous le savons. Mais de notre côté, nous avons également besoin de savoir que nous devons témoigner notre amour à Christ. Et lorsqu'on parle d'amour, c'est sûr que dans la Bible en français, ou même dans notre langage courant de tous les jours, lorsque nous parlons d'amour, quelqu'un pourrait dire « j'aime cette pomme » et un instant après, pour un homme ou une femme mariée, dire « j'aime mon mari, j'aime ma femme ». Vous voyez, c'est la même chose. J'aime cette pomme, mais la nuance, elle se trouve dans le contexte peut-être. Mais on dit toujours « j'aime aller à l'église ». J'aime faire du sport, j'aime conduire ma belle voiture de collection. J'en ai pas, vous voyez, hein, quand je fais ça, mais il n'y a rien du tout. Hein. Vous voyez, on aime. En français, voilà, il y a vraiment ce mot aimer qu'on utilise dans beaucoup de contextes, alors que dans le grec, mais le mot aimer a plusieurs. En fait, c'est un mot polysémique et c'est un mot qui a quelques synonymes. Et j'aimerais vraiment, avant tout, vous parler de ces synonymes du verbe « aimer », bien évidemment, en grec. Le grec, c'est la langue qui a permis, bien évidemment, qui a été utilisée pour écrire le Nouveau Testament. Et la plupart des textes que nous allons utiliser ce matin font bien sûr partie du Nouveau Testament. Et le premier mot du grec qui veut dire « amour », c'est le mot « eros », c'est étonnant. Et là, il est question de l'amour-passion, il est question de cette rencontre amoureuse entre un homme et une femme. Cela concerne bien sûr l'attirance physique que peuvent avoir un homme et une femme. Bien sûr, dans la Bible, le mot « eros » n'existe pas en ces termes. Mais nous pouvons assimiler le mot « eros » au mot « connaître », ce qu'on utilise par ailleurs dans la Bible. Pour les habitués de la Bible, les habitués de ce lieu, vous savez par exemple que dans la Bible, au chapitre 4 du livre de la Genèse, au verset 1er, il est écrit qu'Adam connut Ève, sa femme, et donc elle conçut, elle enfanta Caïn. Le verbe connaître ici peut être assimilé au verbe eros. Mais on ne trouve pas eros directement dans la Bible. Et bien sûr que voilà, l'amour eros est un amour qui est important, c'est un amour qui a toute sa place. Il y a aussi l'amour philéo. Et l'amour philéo, c'est cet amour, quand on lit la Bible, quelquefois on a du mal à faire la différence avec le dernier terme que je vais vous présenter ce matin. L'amour philéo, c'est plus un amour de partage, un amour de réciprocité. Un amour qui partage, c'est-à-dire celui qui prend et qui donne. C'est un amour qui peut être qualifié d'amour humain, d'amour naturel. Et cet amour peut se manifester sous forme, par exemple, d'amitié. Ça peut se manifester sous forme de fraternité. Et nous avons un exemple parfait, ou du moins très, très intéressant dans la Bible. C'est en ce qui concerne l'amitié qu'il y avait entre David et Jonathan. Il y avait une phila entre David et Jonathan. Cet amour, il est plus profond, bien sûr, que l'amour eros, mais il n'est pas suffisant. Parce que nous savons que c'est un amour qui implique beaucoup nos sentiments, qui implique beaucoup nos émotions, et nous savons que lorsque nos sentiments où nos émotions sont en train, et bien sûr, les gens qui sont en face de nous deviennent tout de suite des hommes et des femmes à ne plus aimer. Nul besoin de vous l'apprendre ce matin. Nous avons déjà tous fait l'expérience de cela. Et il y a cet amour qu'on appelle l'amour agapao. Cet amour agapao, bien sûr, il inclut aussi l'amitié. L'amitié, il y a tout cela là-dedans, mais c'est un amour qui est beaucoup plus décrit comme étant un amour désintéressé, un amour inconditionnel. Un amour où on n'attend rien de l'autre, c'est un amour qui donne tout. Et c'est cet amour que nous entretenons avec Dieu. Et c'est de cet amour que Dieu nous a aimés. Dieu n'attendait rien de nous. Et ça, vous le savez. Il n'y avait rien de bon en nous. Et même s'il y en avait, Dieu n'attend rien de nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, que nous aimions ou non Dieu, cela ne change rien pour Dieu. Dieu reste Dieu. Et ça, quelquefois, ça nous étonne. Dieu reste Dieu. Dieu existe par lui-même, pour lui-même. Et tout ce qu'il fait, c'est pour sa propre gloire. Quand il a créé l'homme et la femme, c'est pour sa gloire. Et cet amour agapao est bien évidemment bien décrit, très bien décrit dans un texte que nous connaissons tous. C'est le texte de 1 Corinthiens 13. Et oui, où il nous est dit à partir du verset 4 que l'amour est patient. Il supporte tout, il n'est pas envieux. Eh bien oui, il ne se plaît pas de l'injustice. Il aime la vérité. Et de terminer avec l'amour ne meurt jamais. Dans certaines versions, l'amour ne faillit jamais. C'est de cet amour dont nous devons aimer Dieu. Et c'est de cet amour que Dieu nous aime. C'est un amour inconditionnel. C'est un amour qui véritablement doit nous amener à aimer Dieu, non pas pour ce qu'il nous donne, mais pour qui il est. Aimer Dieu pour qui il est. Je crois que c'est le défi des chrétiens, je me permettrai de dire aujourd'hui, parce que je ne connais pas ceux d'hier, ceux d'avant-hier et ceux du premier siècle, mais bien sûr les Écritures nous renseignent sur comment l'Église s'est mise en place, comment l'Église a évolué. On se rend compte que notre défi aujourd'hui, parce qu'il y a une connotation de l'amour dans notre société qui n'a rien à voir avec la Bible. Nous assistons à un amour qui est dans notre société comme étant un amour business. Un amour business. Mais l'amour dont nous devons aimer Dieu, c'est un amour qui est entaché ni d'un sentiment malveillant, ni encore d'une motivation souillée. Mais un amour pur, l'amour agapao, cet amour qui est la nature de Dieu. Et donc vous voyez que cet amour est si puissant, est tellement puissant et profond qu'il ne peut pas faillir. Et c'est l'apôtre Paul qui nous le dit dans 1 Corinthiens 13. Il dit cet amour ne peut pas faillir, c'est étonnant. Alors que peut-être vous êtes en train de penser, alors que je parle, vous pensez à un voisin, peut-être même à un proche, vous dites, mais tiens, mais Ulrich, il va falloir que tu révises tes classes là. Parce que moi, dans mon entourage, il y en a qui viennent de divorcer. Il y en a qui viennent de se séparer. Alors qu'il y a encore 15 ans en arrière, ils s'aimaient follement. Ils étaient follement amoureux. Et aujourd'hui, voilà, au bout de 15 ans, que mais plus rien ne va. Et ils sont en train de se séparer. Ils sont en train de divorcer. Eh bien oui, c'est étonnant. Et là, tout de suite, vous allez identifier de quel amour il est question lorsqu'on en arrive là. C'est l'amour de partage, c'est l'amour de réciprocité. Mais l'amour de Dieu, qui n'attend rien en retour, est un amour infaillible. Et donc, lorsqu'il est question de notre amour pour Christ, je vais voir trois points avec vous ce matin. Le premier, c'est que cet amour pour Christ implique de savoir qu'il nous a aimés le premier. Ce n'est ni vous, ni moi qui sommes allés vers Christ en disant, ben, je vais t'aimer. Non, c'est lui qui nous a aimés le premier. C'est lui qui est venu vers nous. C'est lui qui est descendu dans notre misère. C'est lui qui est venu dans notre humanité pour nous montrer, bien évidemment, cet amour. Et nous le lisons, bien sûr, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, au verset 8, ce texte de l'apôtre Paul, où il est écrit que comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voici l'amour agapao. Nous étions encore ennemis de Dieu, des pécheurs. Christ est mort pour nous. Christ a donné sa vie pour des gens qui étaient ses ennemis. Christ a donné sa vie pour des hommes et des femmes qui n'en valaient pas la peine d'un point de vue divin. Mais pourtant, c'est pour ces hommes et ces femmes que Christ a donné sa vie. Et cela, nous pouvons le lire de manière beaucoup plus développée dans ce qu'on appelle, par ailleurs, le cinquième évangile, le livre d'Ésaïe, ce chapitre que vous connaissez très bien, le chapitre 53. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarés. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Voilà l'amour de Dieu. Nous étions condamnés devant Dieu à cause du péché qui a engendré en nous toutes les fautes que nous pouvons commettre. À cause de cela, nous étions complètement éloignés de Dieu. Nous vivions selon nos propres penchants. Nous vivions selon nos désirs, des désirs qui n'honorent pas Dieu, des désirs qui ne glorifient pas Dieu. Et c'est dans ce contexte que Dieu dit, je vais envoyer mon Fils dans l'humanité. Ça, c'est l'amour désintéressé. C'est l'amour inconditionnel. Parce que Dieu n'a pas dit, si vous voulez que je vienne pour vous sauver, il va falloir qu'en retour vous me donniez ceci. Non! On a beau dire tous les jours à sa femme, je t'aime, mais c'est intéressé. Ou à son mari, c'est intéressé. La preuve, c'est que vous n'allez pas dans les rues pour dire à tout le monde, je vous aime. Si vous le dites à votre épouse ou à votre époux, c'est parce qu'il y a un intérêt. Mais là, quel était l'intérêt de Dieu? Aucun. Il est venu, il a aimé un monde qui était complètement éloigné de lui. Un monde qui était ennemi de Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Romains. Il dit, Dieu a prouvé son amour. Dieu a montré, a fait la démonstration de son amour inconditionnel, de son amour désintéressé. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc la première chose que nous devons savoir pour aimer Christ, c'est que cela implique que lui, le premier, nous a aimés. Lui est venu vers nous pour nous aimer. Lui est descendu, vous savez, on n'imagine pas en tant qu'être humain, on n'imagine pas l'œuvre de Dieu, frères et sœurs, chers amis, on n'imagine pas de voir le Dieu qui a créé toutes choses, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui ne peut pas être contenu. Ce Dieu, il s'est fait petit, il est venu dans le corps d'un être humain pour délivrer les êtres humains. Nous ne mesurons pas assez cela. Dieu s'est humilié, Dieu s'est vraiment rabaissé. Alors qu'il n'avait aucun intérêt pour le faire, si ce n'est pour nous, Dieu l'a fait pour nous. Et l'amour désintéressé, c'est celui qui s'intéresse aux autres sans attendre quoi que ce soit en retour. Dieu l'a fait. Le Dieu de toute éternité, celui qui soutient toutes choses par sa parole glorieuse, lui est descendu de son trône de gloire dans la personne de son Fils pour s'incarner, pour vivre parmi les hommes, afin de manifester cet amour. Si, la première chose, si Christ ne nous a pas aimés, il est impossible pour n'importe quel être humain, malgré ses efforts, malgré toute sa connaissance, de pouvoir aimer Dieu. Si nous pouvons aimer Christ, c'est parce que lui, le premier, nous a aimés. Parce que lui est venu le premier vers nous. Et c'est en cela que l'apôtre Paul, pour conclure une série de choses qu'il va dire dans les chapitres 1, 2, 3 et 4 de l'Épître aux Romains, où bien sûr il remet les choses en perspective, il dit que finalement il n'y a plus en fait ni juif ni grec, en ce sens que tout le monde est coupable devant Dieu. Que l'on ait une religion ou pas, tout le monde à la base est coupable devant Dieu. Et là, au chapitre 5, nous allons lire maintenant dans Romains 5, au verset 1er. On ne commence pas une phrase ou un chapitre en disant « alors donc ». Non, c'est une conclusion. Il est en train de conclure ce qu'il a déjà dit plus haut. Ni nous sommes déclarés justes sur la base de la foi. Nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers, même de nos détresses. Oh, ça c'est fort quand même. Nous sommes fiers de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'apôtre Paul conclut, parce que comme je vous ai dit plus haut dans les chapitres précédents, il va parler bien sûr de tous les êtres humains qui sont à égalité devant Dieu, qui sont tous à la base coupables devant Dieu, qui méritent tous d'aller loin de Dieu pour l'éternité. Et l'apôtre Paul va conclure en disant, mais il faut que vous sachiez que nul homme par ses œuvres, que nul homme par ses efforts religieux, que nul homme par quoi que ce soit d'autre ne peut être déclaré juste devant Dieu, si ce n'est par la foi. Il dit, c'est par la foi que vous êtes déclaré juste. Mais cette foi, elle vient rencontrer quoi? La grâce de Dieu. Il faut que Dieu nous ait fait au préalable grâce pour que nous fassions confiance à ce Dieu. Et il dit, c'est par l'intermédiaire de Jésus. L'apôtre Paul rappelle comment est-ce qu'on vient à Dieu. Et Jésus l'a dit par ailleurs, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est par l'intermédiaire. Donc aucun être humain sur cette terre ne peut voir la face de Dieu pour l'éternité. Quels que soient ses efforts, quelle que soit sa bonne vie morale, même si vous n'avez jamais volé, vous n'avez jamais triché aux examens, c'est la période, ne trichez pas. Vous ne l'avez jamais fait. Mais Dieu dit, parce que le premier homme a péché, tous les autres hommes, quelle que soit leur famille, quel que soit leur milieu social, quel que soit leur emploi, quel que soit ce qu'ils font, ils sont pécheurs devant Dieu. Et le seul moyen de ne plus l'être, c'est d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. C'est le seul moyen. Dieu dit, je n'ai pas un autre médicament contre le péché. Je n'ai pas une autre thérapie. Il dit, mon immunothérapie, c'est Jésus. Il dit, ma chimio, c'est Jésus. Il dit, ma radio, c'est Jésus. Il dit, ma fibro, c'est Jésus. Il dit, ma colon, c'est Jésus. Tout pour Dieu, c'est Jésus. Tout est en Jésus-Christ. Le seul moyen d'atteindre Dieu, le seul moyen de faire en sorte que la colère de Dieu qui pèse sur l'humanité soit complètement anéantie, il faut passer par Jésus. C'est le seul qui nous donne accès à la présence de Dieu. C'est le seul qui nous réconcilie avec Dieu. C'est le seul traitement qui vaille sur cette terre. L'apôtre Pierre dira, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sous le ciel par lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. C'est le seul, c'est lui. Et donc l'apôtre Paul rappelle cela, il dit non, c'est par l'intermédiaire de Jésus que nous sommes sauvés, certainement au moyen de la foi. Et là, il va parler ensuite de l'espérance, il va parler de la persévérance. C'est étonnant, il dit, nous devons même être fiers de souffrir pour Jésus. C'est étonnant, c'est des choses que nous n'aimons pas. Nous devons être fiers de souffrir pour Jésus. Et c'est sûr que quand l'apôtre Paul nous dit ce genre de choses, ce n'est pas un théoricien, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Parce que sa vie ne sera pas de tout repos pendant son ministère. C'est quelqu'un qui va souffrir à cause du nom de Jésus et de la parole, de l'évangile. Il le sait. Et il le dit, non pas pour nous dire, mais écoutez, c'est du fatalisme. Non, il nous encourage parce qu'il sait, il est honnête, il est véridique. Il nous dit, attention, enfant de Dieu, ne croyez pas que la vie chrétienne est une vie de tout repos. Ne croyez pas que parce que vous êtes devenu chrétien, que l'ennemi maintenant, il va vous dire, ah ben non, mais lui, ce n'est pas la peine. Non, au contraire. L'apôtre Pierre dit, le diable est un ennemi redoutable. Il est comme un lion rugissant qui rôde autour de votre vie. Parce qu'il cherche une chose, c'est vous détruire. Et la plus grande destruction que le diable puisse faire d'un enfant de Dieu, c'est de t'éloigner de ton père. Et aujourd'hui, nous assistons de plus en plus à des hommes et à des femmes. Je dis ça, mais avec beaucoup de modestie, frères et sœurs, parce que je ne suis pas un héros, je ne suis pas mieux placé pour en parler. Mais frères et sœurs, si les épreuves nous font éloigner de Dieu, alors le diable a gagné. Alors le diable a gagné. Paul dit non, nous sommes fiers même de nos détresses. Il dit parce que la détresse produit la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. C'est étonnant, hein? Juste le fait de persévérer, on devient victorieux. Non, parce que ce qui suit est important. Quelle est la force que Dieu nous a donnée pour pouvoir justement vivre notre salut pleinement et de rester même, de demeurer ferme même dans l'épreuve? Quelle est la force? C'est celle que l'apôtre Paul va décrire dans le dernier verset. Il va dire, or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est la force qui nous permet de garder notre foi. Vous vous rappelez que le chapitre 13 du premier livre, de la première épître aux Corinthiens, se termine avec cette phrase. Or, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance est là, mais la plus grande de ces choses, c'est là, c'est l'amour. Regardez, on retrouve les mêmes choses ici. La foi, l'espérance et l'amour. Notre foi, frères et sœurs, elle est vivante par l'amour. Notre foi est opérationnelle par l'amour. Dès que nous arrêtons d'aimer Christ, notre foi devient un devoir religieux. Mais si notre foi est fondée sur l'amour, à partir de ce moment, ce n'est pas le devoir qui nous gagne, mais c'est au contraire la passion que nous avons dans notre cœur pour notre Seigneur. Et c'est ça qui nous maintient. Même dans les épreuves, si c'est un devoir, mais écoutez, vous allez vite lâcher prise. Et nous sommes tous comme ça. Il n'y a personne qui est mieux que quelqu'un d'autre. Nous sommes tous comme ça. Mais l'apôtre Paul nous dit, pour résister même dans l'épreuve, pour que notre espérance ne soit pas vaine, pour que notre espérance demeure vivante, il va falloir que nous soyons fondés sur l'amour. Parce que c'est l'amour qui va justement nous permettre, bien évidemment, de tenir ferme. C'est cet amour dont nous avons besoin. Donc la deuxième chose, c'est que aimer Christ implique de savoir que nous avons été justifiés pour le suivre, pour lui obéir et pour le servir. C'est étonnant de plus en plus, frères et sœurs. Moi, je suis surpris, je ne sais pas vous, mais moi, je suis surpris de voir que quelquefois, nous nous comportons même pire que les religieux que nous critiquons. Je m'explique. Là, ils se disent, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter, lui? Vous savez, quand on est sauvé, nous entendons beaucoup de choses, l'une et d'autre. Il y a certains qui disent, mais oui, maintenant que je suis sauvé, j'attends d'aller au ciel. Oh, c'est un bon programme, celui-là. Il n'y a pas de souci. Il y a d'autres qui se disent, mais voilà, moi, je viens de me convertir. Voilà, dès que je me fais baptiser, ça y est, c'est fini, j'irai au paradis, j'irai au ciel. C'est pas mal, c'est encore un bon programme aussi. Mais imaginez-vous, frères et sœurs, si Dieu nous sauvait pour que nous allions au ciel, mais que faisons-nous sur la terre en attendant? Pourquoi Dieu nous laisse-t-il? Pourquoi nous laisse-t-il sur la terre? Pourquoi faire? Frères et sœurs, vous savez, si nous arrivons à répondre chacun, chacune à cette question, nous verrons tout de suite, oh, moi je ne suis pas bien placé, parce que vous allez me dire, mais lui il est pasteur, il est payé pour ça. Non, frères et sœurs, nous avons été sauvés pour être des hommes et des femmes engagés. Nous n'avons pas été sauvés pour venir juste aux réunions, c'est bien, ça en fait partie, pour recevoir des enseignements, et des enseignements qui sont censés nous impacter normalement, qui sont censés nous influencer dans le bon sens du terme pour nous permettre, bien évidemment, d'être des hommes et des femmes qui soient consacrés pour Dieu. À quoi ça sert d'entendre les enseignements semaine après semaine s'ils n'ont aucun impact dans notre vie? Nous devenons ce que Jacques appelle des auditeurs oublieux. Nous devenons des auditeurs oubliés. Nous avons vu que Dieu n'a pas seulement dit les êtres humains, je vous vois de loin. Je vous aime sur la terre, mais vous êtes dans un mauvais bourbier là. Mais vous savez quoi? Mais moi je vous vois d'en haut, je suis content, allez, coucou. Non, l'amour pose des actes, frères et sœurs. Si tu aimes Christ, tu ne peux pas rester sans servir Christ. C'est impossible. C'est impossible. Il n'y a pas besoin de dire tu es pasteur, tu es ceci. Non. Quand on regarde Paul, Pierre, Paul, Jacques, ils avaient leur métier, mais ils servaient Jésus-Christ. Ils étaient passionnés. On ne peut pas se cacher aujourd'hui en disant oui, mais j'ai ceci, j'ai cela. Non, ça se comprend. Mais frères et sœurs, nous sommes servis pour être engagés, des hommes et des femmes qui servent le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons le suivre pour le servir. C'est cela l'amour. Nous ne pouvons pas nous cacher derrière. Non, la Bible nous dit de racheter notre temps. Eh oui. Nul besoin peut-être de culpabiliser quelqu'un. Mais écoute, si tu passes 3 heures devant la télé, eh bien c'est sûr qu'à un moment, tu ne pourras pas faire autre chose. Ben c'est tout simple. Si tu passes 4 heures en train de faire ça, eh bien tu n'auras pas assez de temps pour réviser tes cours. Eh bien oui, ils comprennent hein, à qui je m'adresse là. Hein? Eh bien oui. Frères et sœurs, Dieu nous a justifiés pour l'aimer, le suivre, lui obéir et pour le servir. C'est ce que Dieu, lorsqu'il a sauvé le peuple, quand Dieu a envoyé Moïse en Égypte, que lui a-t-il dit? Va trouver les enfants d'Israël et dis-leur qu'ils doivent sortir d'Égypte, ils doivent sortir d'Égypte pour venir quoi? Me servir. C'est pour servir. Dieu nous sauve pour le servir. Dieu nous sauve pour être à lui, pour lui appartenir. Frères et sœurs, sortons de ce christianisme humaniste. Et quelquefois, nous avons même l'impression que nous donnons tellement à Dieu. Mais non, il n'y a pas, nous ne pouvons pas donner plus à Dieu. Nous ne pouvons pas donner, non. Ce que nous faisons pour Dieu est même insignifiant. Ça n'a même pas de valeur. Vous savez, un homme, si ma mémoire est bonne, c'est Luther, Martin Luther qui disait, vous savez, je ne sais plus si c'est lui, qui disait, mais vous savez, mais je me répands devant Dieu, je demande pardon à Dieu, aussi bien pour mes mauvaises que pour mes bonnes œuvres. C'est étonnant, hein? Il faut vraiment avoir de l'humilité pour dire ça. Il faut être humble. Il dit non, je demande pardon à Dieu. Vous savez pourquoi? Eh bien, parce que celles qu'on trouve qu'elles sont mauvaises, eh bien, on se dit, ben oui, mais Seigneur, oui, elles sont mauvaises. Mais celles qu'on trouve qu'elles sont bonnes, elles font quoi? Elles nous font enfler les. Bon, moi, ce n'est pas la tête, j'ai déjà le melon, donc c'est bon. Non, mais c'est ça, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas donner plus à Dieu. Parce qu'il est notre Dieu, nous l'aimons passionnément. Nous devons le servir. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque l'apôtre Paul parle de l'amour de cette manière, il dit, mais en fait, c'est l'amour qui est à la base de tout. C'est l'amour qui est à la base de la foi. C'est l'amour qui est à la base de la persévérance, de l'espérance. Il dit, c'est l'amour qui est à la base de toutes ces choses. Et vous savez, on ne va pas le lire, mais dans 1 Jean 3, la première lettre de Jean au chapitre 3, mais en fait, Jean nous parle de quoi? Jean nous parle de l'amour pratique. Vous savez ce que Jean dit? Il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Nous sommes passés, nous savons. Il ne dit pas, je pense, mon opinion c'est. Non, il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Donc l'amour, ce n'est pas une conjugaison. L'amour, c'est pratique. L'amour pose des actes, tout comme Dieu a posé le plus grand acte, celui de donner son fils, pour que vous et moi, nous puissions nous retrouver comme nous le faisons ce matin en ce lieu. C'est un acte d'amour que Dieu a posé, un acte désintéressé, comme je l'ai déjà dit. Et l'apôtre Jean va nous dire, mais non, nous savons que nous sommes passés de la mort spirituelle à la vie spirituelle, c'est-à-dire à la vie éternelle, parce que nous aimons nos frères. C'est fort quand même, vous savez, dans la même lettre, vous savez ce que Jean dit? Il dit, celui qui est son frère, il est quoi? Un meurtrier. C'est quand même étonnant. Hein? Et là, nous disons, ce n'est pas si souvent que nous prions, disons, oh Seigneur, mets l'amour dans mon cœur. Mais c'est quel genre de prière que nous faisons comme ça? Alors que l'apôtre Paul nous dit que L'amour dans notre cœur est un fait. Ce n'est pas une promesse. Dieu n'a pas dit « Je déverserai l'amour dans votre cœur ». Dieu n'a pas dit, vous savez, à l'an 2100, pour ceux qui verront cette période-là, je déverserai. Non, il dit bien, l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, si vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit habite en vous, oui ou non? Alors, si c'est lui qui déverse cet amour, pourquoi lui demander d'aimer? L'amour, c'est que c'est une décision. Je dois aimer. C'est pour cette raison que Jésus a dit désormais, même vos ennemis, vous devez les aimer. C'est une décision. Arrêtons de demander à Dieu ce qu'il nous a déjà donné. C'est comme si je disais à Dieu, Seigneur, je te prie pour que tu me donnes une tête. J'en ai une, c'est bon. Arrêtons. C'est un fait. L'amour est dans nous. Pas besoin de le demander à Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous dit par ailleurs que n'est-ce pas l'amour est le fruit de l'esprit, oui ou non? Eh bien, cet esprit-là est où? En nous. Pourquoi nous voulons chercher? Non, écoutez, personne, même Dieu, vous allez trouver que c'est peut-être arrogant, même Dieu est incapable de changer le fait qu'il y ait eu la Seconde Guerre mondiale. C'est un fait, c'est comme ça. Il est incapable, il ne peut pas. C'est un fait. Ni vous ni moi, par nos prières, ne pouvons pas changer le fait qu'il y a eu une Seconde Guerre mondiale. C'est comme ça, c'est un fait. Donc quand Dieu dit qu'il a répandu l'amour en nous, c'est un fait, il est en nous. Nous n'avons pas à le chercher ailleurs. Mais je vous ai donné les trois types d'amour qui peuvent exister. C'est à nous de déterminer lequel, avec lequel nous aimons souvent les autres. Est-ce que nous aimons les autres parce que nous attendons quelque chose en retour? À partir de ce moment-là, nous ne pouvons pas aimer les autres. Parce que comment voulez-vous, pour prendre un exemple qui va peut-être nous choquer tous ce matin, dites-moi comment, avec vos sentiments, vous pouvez aimer quelqu'un qui est un terroriste et qui a tué vos enfants? Dites-moi comment. Mais Dieu vous dit que cet homme, cette femme, vous devez l'aimer. Avec quel amour? L'amour inconditionnel. C'est ça l'amour de Dieu. C'est pour cette raison que si nous ne sommes pas imprégnés et nous ne manifestons pas cet amour, nous n'allons pas pouvoir aimer ceux et celles qui nous entourent. Nous allons toujours les regarder avec une vue charnelle. Mais l'amour de Dieu regarde au-delà de la chair. L'amour de Dieu regarde au-delà de ce que les gens sont. L'amour de Dieu regarde les créatures de Dieu. L'amour de Dieu regarde toujours le possible de Dieu dans les gens. Mais nous pouvons nous limiter à nos sentiments. Nous pouvons nous limiter à cela en disant, ah ben oui, mais vous savez, moi j'ai perdu ceci, mais c'est une réalité. Dieu ne le nie pas. Comment tu fais ensuite? Nous, peut-être, nous ne sommes pas frappés, mais il me semble qu'il y a 2 ans, ou je ne sais pas, un peu plus de 2 ans, bientôt 3 ans maintenant, il me semble, 2 ans, quand il y a eu ce qu'il y a eu à Nice, il paraît qu'il y a eu un chrétien qui est décédé dedans. Et comment on fait quand ce chrétien-là appartient à une famille? Comment on fait? Eh ben oui. Facilement, il peut avoir des sentiments de haine qui s'élèvent en nous. Mais Dieu nous dit non, il faut aimer. Vous comprenez maintenant pourquoi Jésus aimait tout le monde? Il n'aimait pas les gens avec ses sentiments. Il aimait les gens non pas avec l'amour philéo, mais avec l'amour agapao, l'amour inconditionnel. Parce que quand tu vois quelqu'un en face de toi, tu sais que c'est un ennemi. Je vous ai dit que l'amour philéo, c'est un amour qui donne et qui prend. Alors, vous voulez aimer avec cet amour votre ennemi. Que peut-il vous donner en retour? Rien. Donc, forcément, vous allez être frustré. Vous allez développer un sentiment de haine, un sentiment de rancœur, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais l'amour agapao, qui est patient, qui supporte tout, qui ne se plaint pas, qui ne soupçonne pas le mal, avec cet amour-là, vous êtes capable d'aimer n'importe qui. C'est cet amour. C'est pour ça que nous allons lire un texte maintenant dans l'évangile de Jean. Regardez ce que Jésus va déclarer. Jésus va dire, si vous m'aimez, c'est étonnant, hein? Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez. Et il va demeurer avec vous et il sera en vous. Jésus dit, c'est anachronique, ça n'a pas de sens. Dans la même phrase, Jésus parle de l'amour et de loi, de commandement. Alors que dans notre entendement, l'amour c'est quoi? C'est la liberté. L'amour, c'est quoi? C'est l'absence. C'est l'absence de contrainte. C'est ça pour nous. Nous assistons tous à cela dans nos familles. Des enfants, des petits-enfants, des cousins, des cousines, des amis peut-être proches, et qui disent, ben oui, mais moi, voilà, j'aime tellement, mais je n'ai pas envie, justement, d'être influencé par des contraintes, par quoi que ce soit d'autre. Moi, j'aime. Oui, mais ça, ce n'est pas l'amour de Dieu, ça. Non. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Dieu nous aime de manière inconditionnée. Il nous aime, mais l'amour de Dieu, c'est un amour qui nous responsabilise. C'est un amour qui nous responsabilise. Vous savez, pendant longtemps, les gens de l'ancienne alliance ont été habitués avec cet amour. C'était pas vraiment, c'était un code moral, la loi. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tout était négatif. Et là, Jésus dit désormais, si vous m'aimez, respectez mes commandements. C'est étonnant. Si vous m'aimez. Jésus est en train de nous apprendre quoi? Que désormais, ce n'est plus un code moral, la relation entre l'être humain et Dieu. Ne sera plus basée sur un code moral, mais elle sera désormais basée sur l'amour. Parce que si tu aimes Dieu, tu diras comme David, je veux faire de tes commandements mes délices. Vous comprenez pourquoi il disait que c'était un homme selon son? Eh oui. Il dit non. David n'a pas respecté les commandements de Dieu tout le temps, mais pourtant, il disait, je veux faire de tes commandements mes délices. Jésus dit, si vous m'aimez, autrement dit, Jésus est en train de dire quoi? Quelque chose de très important, si vous m'aimez. Pour Jésus, en fait, l'amour, c'est l'obéissance. C'est étonnant. L'amour, c'est l'obéissance. Et là, nous, ça nous étonne. Mais oui, comment l'amour, c'est... Oui, l'amour, c'est l'obéissance. Frères et sœurs. Nous allons le voir un peu plus loin, que Jésus lui-même le manifeste très bien. Si vous m'aimez. Alors, tu ne peux pas dire que tu aimes le Seigneur, mais que tu n'aimes pas sa parole, mais que tu n'aimes pas son œuvre, et que tu n'aimes pas ce que lui, il aime. C'est impossible. Jésus dit, si vous m'aimez, si vous respectez mes commandements, je prie le Père vous envoie l'Esprit. Le Saint-Esprit est opérationnel dans un cœur, une vie obéissante. Ah oui, frères et sœurs, c'est dans une vie obéissante que le Saint-Esprit se plaît à manifester les œuvres de Dieu. Si nous ne marchons pas selon Dieu, eh bien le Saint-Esprit n'est pas à l'aise dans notre vie et il ne peut pas manifester son amour. Et vous savez que l'amour, c'est la loi de la nouvelle alliance. Je vous ai montré par les écrits de l'apôtre Jean dans sa première lettre que l'amour était l'évidence que nous sommes nés de nouveau. C'est étonnant. Hein? Quand Jean dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères, il est en train de dire que l'amour, c'est l'évidence de la nouvelle naissance. C'est-à-dire, c'est quand on aime qu'on est véritablement né de nouveau, qu'on manifeste la nouvelle créature que nous sommes. Mais l'amour, c'est aussi, bien sûr, la loi de la nouvelle alliance. Vous vous rappelez tous et toutes des paroles de Jésus. Il va dire, je vous donne un nouveau commandement, c'est que vous devez vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Et par ailleurs, il dira, lorsque les pharisiens vont venir lui poser des questions, il va dire, ben, vous connaissez la loi, il faut aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, de toute votre force. Et il dit, mais je vous donne un deuxième commandement, c'est que vous devez aimer votre prochain comme vous-même. C'est la nouvelle loi, l'amour. Vous savez pourquoi? Parce que dans la loi de Moïse, ben, il y a d'abord le premier volet que Jésus va répondre en disant, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Eh bien oui, mais le deuxième volet, quand Jésus dit, le deuxième, c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. En fait, il concerne quoi? Mais il concerne tous les autres commandements qui viennent après. Quand on dit, tu ne voleras pas, tu ne tromperas pas, tu ne commettras pas l'adultère. Eh bien oui, mais si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas lui affliger toutes ces choses. Autrement dit, la loi de Moïse est accomplie dans l'amour. C'est ce que Jésus veut dire. Le dernier point, c'est que notre amour pour Christ implique que nous devons aimer comme lui-même aime. On va lire tout de suite un texte dans Jean 14 pour voir ce que Jésus dit. Maintenant, il s'adresse à ses disciples. Il leur a parlé de la croix, de ce qui va arriver. Et là, maintenant, voici ce qu'il va leur dire pour clôturer ce chapitre 14. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. C'est étonnant. Jésus dit à ses disciples, il faut que vous sachiez que le fait que j'aille à la croix, le fait que j'ai supporté tout ce que j'ai pu supporter pendant ces 3 ans et demi, ce n'est pas par devoir. Non, je l'ai supporté, je le fais parce que j'aime mon Père. Il est en train de leur donner une grande révélation pour leur dire, je n'ai pas servi Dieu par devoir. Je n'ai pas servi Dieu parce qu'il fallait que je vienne. Non, c'est parce que je suis non seulement d'accord avec mon Père et que j'aime le Père. Alors si je vais à la croix, c'est pour que le monde sache, pour que le monde croit que j'aime le Père. Autrement dit, l'amour de Jésus, la croix, la souffrance que Jésus a connue, c'est l'ultime démonstration de Christ, de l'amour de Christ pour son Père. Mais par ailleurs, c'est aussi l'ultime démonstration de l'amour de Christ pour qui? Pour l'humanité. Il dit, afin que dans le but que les gens, le monde sache que j'aime le Père. Je ne vais pas à la croix parce que c'est un devoir. Non, j'y vais par amour. Même si c'est difficile. Vous savez, vous connaissez tous cet épisode de Jésus où il va prier pendant 3 reprises la même chose, il va demander la même chose à son Père. Mais oui, parce qu'il avait cette humanité. Mais malgré cela, Jésus a choisi l'amour. Il dit, j'obéis parce que mon amour me pousse à obéir. Ce n'est pas l'obéissance qui me pousse à aimer, non. C'est mon amour qui me pousse à obéir. C'est mon amour qui me pousse à faire confiance à Dieu. C'est mon amour qui me pousse à œuvrer pour Dieu sans compter. C'est mon amour. Si je considère que c'est un devoir, à un moment, je vais me retrouver avec Dieu face à moi comme étant un employé. Un employeur, pardon. Forcément, à un moment. À un moment, tu vas compter. Tu vas dire, mais je fais tellement, je fais ci, je fais ça. Non. Tu vas considérer Dieu comme étant un employeur. Dieu n'est pas un employeur. Nous sommes associés avec Dieu. Nous faisons partie de l'entreprise de Dieu. Nous sommes, donc c'est l'entreprise, Dieu est associé. Nous sommes les associés de Dieu. Nous travaillons avec lui. Jésus dit, c'est la démonstration ultime de mon amour. En allant sur le bois de la croix, je démontre mon amour. Et c'est pour cette raison que Jésus dira déjà dans le chapitre avant, je vous l'ai déjà dit, dans le chapitre de Jean, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et regardez, il reprend la même chose qu'il vient de nous dire dans Jean 14. Il dit, c'est à ceci que tous connaîtront. Donc, quand vous vous aimez, vous démontrez quoi? Le fait d'être disciple de Christ. C'est étonnant, c'est l'amour. Jésus n'a pas dit, si vous priez les uns les autres, si vous vous saluez les uns les autres, tout ça c'est bien. Il ne nous a pas dit, si vous allez au même endroit les uns les autres. Non, il dit, si vous vous aimez les uns les autres, c'est alors que les gens vont voir. Écoutez, Jésus nous a donné une maxime qui vaut pour l'éternité. Il a dit, si une maison est divisée contre elle-même, elle ne peut pas subsister, frères et sœurs. Nous aurons des différends encore aujourd'hui. Demain, nous allons en avoir. Certainement que toi qui te dis, j'ai été blessé par un frère, par une sœur. Demain, il y a un frère, il y a une sœur qui te blesseront encore. Est-ce que c'est pour cette raison que ton amour pour Christ va faiblir? Parce que si quelqu'un te blesse et que tu donnes comme, bien évidemment, excuse que non, je ne veux plus participer à la vie communautaire parce que j'ai été blessé, mais ta motivation, que pourrons-nous en dire? Est-ce que ta motivation, c'est l'amour que tu as pour Christ? Moi, quand je viens, comme nous le faisons ce matin avec vous, je me réjouis. Ce qui me conduit d'abord en ce lieu, ce n'est pas d'abord vous, ça peut vous décevoir. C'est d'abord mon Jésus. Je viens d'abord pour mon Jésus. Et parce que je sais que Jésus vous aime, mais je vous aime aussi. C'est comme ça. Et comme Jésus ne déteste personne sur la terre, eh bien j'aime tous les chrétiens. Ce n'est pas compliqué. j'aime ce que lui aime. Jésus a fait du bien même à ses ennemis. Frères et sœurs, nous devons être conscients de ces choses. Nous devons aimer comme lui aime. Jésus nous pousse à aimer nos ennemis, nous pousse à faire des choses extraordinaires, pas par nos forces. Non, si nous essayons par nos forces, nous allons échouer. Mais par cet amour agapao, cet amour inconditionné, cet amour. Non, frères et sœurs, c'est cela. Je vais vous terminer avec, voilà, avec vraiment un témoignage. Ce n'est pas tant un témoignage, mais c'en est quand même un. J'ai deux frères aînés. Et lorsque le plus vieux de mes frères aînés parle de notre père qui est décédé depuis un moment, ce n'est pas la même musique que celui du frère qui vient juste après lui. C'est étonnant. Ils ont connu le même père. Oh, on peut avoir des avis différents. Et ce n'est pas cela le problème. Notre père était boulanger. Et à l'époque, quand il était boulanger, eh bien, bien sûr, ses enfants étaient impliqués. Moi, j'étais tout petit encore. Et eux, ils étaient impliqués. Il fallait qu'ils se lèvent très tôt le matin parce que c'était à eux de faire la vente du pain avant d'aller à l'école. Et aujourd'hui, quand mon plus vieux des frères aînés en parle, il trouve ça comme quelque chose qui était barbant. C'était un devoir, c'était difficile. Et lorsque le moins âgé de mes frères aînés en parle, c'est une autre musique. Il est content pour lui. Et il me dit une chose. Il me dit, moi, j'aimais la relation que j'avais avec papa. Et vous savez pourquoi? Parce que mon plus vieux de deux frères, c'était un gars désobéissant. Ça n'a pas d'ailleurs changé aujourd'hui. Il était désobéissant. Quand il avait l'occasion de mettre la main dans la caisse pour aller s'acheter des godasses, tout ce qu'il voulait, il mettait la main. Mais mon autre frère me dit, moi j'aimais la relation. Et quand je parle, j'ai découvert, vraiment la dernière fois que j'étais dans mon pays, j'ai découvert avec lui, quand il parle de notre père, mais il est au bord des larmes. En fait, c'est lui qui souffre le plus. Pourquoi? Parce que moi j'ai connu mon père, j'étais enfant, donc forcément j'ai quelques bribes de souvenirs, mais je n'ai pas grand-chose. Mais lui a connu mon père. Il a connu notre père. Et lui, quand il en parle, mais c'est vraiment avec beaucoup de tendresse, c'est avec beaucoup de joie. Il souffre de l'absence de son père, alors que l'autre, il en est presque heureux, il en est presque content. Ça ne lui manque pas. Pourquoi? Parce qu'il n'avait une relation, en fait, d'un père qui le faisait travailler et il ne savait pas qu'il faisait justement partie de cette entreprise familiale. Alors que l'autre frère, lui, il était content. Eh oui, il était content. Frères et sœurs. Et aujourd'hui, ça se ressent. Parce qu'il y en a un qui est responsable et l'autre irresponsable. Vous avez deviné qui? Non. Avec Dieu, c'est la même chose. Quelquefois, on est là, on trouve que Dieu est dur avec nous. On trouve que la parole de Dieu est trop dure avec nous. Non. Dieu ne peut pas nous demander quelque chose qu'il ne nous a pas donné. S'il nous demande d'aimer même nos ennemis, c'est parce qu'il sait que l'amour qu'il a répandu en nous est un amour qui est capable de nous faire aimer nos ennemis. Frères et sœurs, que Dieu soit béni ce matin. Christ a démontré son amour à son Père. Il nous l'a également démontré. Et Christ nous dit, nous devons l'aimer comme lui nous a aimés. Non pas par devoir, mais parce que nous l'aimons. Nous devons l'aimer pour qui il est. Non pas parce que nous attendons à ce qu'il nous donne quelque chose. Parce que Christ est notre modèle par excellence. Notre amour ne doit pas être théorique, frères et sœurs. L'amour de Dieu est un amour qui est pratique, qui se matérialise par des actes concrets. Et nous sommes appelés à cela. Nous sommes appelés à le suivre, à le servir, à lui obéir, à l'aimer toujours, toujours et toujours. Non pas de nos sentiments, même si quelquefois ils s'en mêlent, mais plus de cet amour qu'il a déversé en nous pour pouvoir l'aimer et l'aimer tous ceux et toutes celles qui nous entourent. Que Dieu soit béni. Seigneur, merci infiniment. Merci parce que tu as prouvé ton amour. Aide-nous chaque jour à prouver aussi notre amour envers toi et envers tous ceux et toutes celles qui nous entourent. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Louange à toi de nous avoir ainsi aimés et de nous avoir donné cette nature pour pouvoir aimer aussi. Que ton nom soit béni. Amen.